Éric Trouvé, à qui je vais passer la parole maintenant, le président donc, de l'Association nationale française des ergothérapeutes, grand acteur justement du développement de diagnostics intelligents, d'évaluation intelligente au domicile, va certainement aller en ce sens, si Jean-François lui en donne les moyens techniques.
Voilà, c'est fait.
C'est l'homme qui donne les moyens techniques.
Tout à fait,
que
c'est Jean-François.
Que l'homme.
C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, c'est Jean-François qui faut...
C'est la technique qui met en voie.
Merci de effectivement me donner la parole et d'avoir l'honneur de passer derrière vous, Catherine, parce que c'est quand même difficile pour un professionnel après d'essayer de montrer effectivement en quoi il va pouvoir préserver cette singularité des individus dans leur parcours et dans leur projet de vie. Mais j'espère quand même vous convaincre, je pense avoir les arguments. Alors effectivement, les présentations de cet après-midi ont à chaque fois replacé l'usager au centre et l'utilisateur au centre, effectivement. Peut-être parfois avec beaucoup de théories, effectivement, qu'on me souffle dans l'oreille. Alors, moi, je vais pas vous parler ni des concepteurs, ni des fabricants, ni des vendeurs, et pas non plus des utilisateurs, mais je vais vous parler d'un maillon dans la chaîne qui est celui des ergothérapeutes. Donc, c'est celui qui peut accompagner, en tout cas, qui essaye d'apporter de son savoir-faire pour faciliter les choses. Alors, peut-être ne vous connaissez-vous pas ce métier. C'est pourtant un métier relativement ancien qui existe donc depuis une centaine d'années. Il est introduit en France dans les années 50 et se développe d'abord dans le milieu du grand handicap et en institution. Alors, effectivement, vous allez me dire, aujourd'hui, pourquoi on en parle ? Eh bien, parce que le champ de l'âge a permis peut-être de faire sortir l'ergothérapie des institutions, parce qu'on a pu voir, effectivement, qu'il y avait une plus-value à l'utiliser dans d'autres cas de figure. Alors, effectivement, à quoi s'attache un ergothérapeute, au final ? Eh bien, un ergothérapeute, il s'attache à rétablir, on va dire, une harmonie entre la personne et ses activités humaines. C'est peut-être la moins médicale des professions médicales. On ne s'attache pas à réparer le corps, on ne s'attache pas à guérir les gens. En fait, on s'attache à donner les moyens aux personnes de réaliser leurs ambitions dans la vie et de retrouver une qualité de vie à travers leurs activités, leur répertoire d'activités. Alors, ça veut dire que dans un parcours de vie, par la maladie, l'accident, l'avancée en âge ou effectivement aussi des problèmes sociaux, eh bien, vos activités peuvent être contrariées. Vous pouvez être limité dans ce que vous avez envie de faire. Et là, l'ergothérapeute, c'est celui qui, théoriquement, doit vous apporter l'aide nécessaire pour passer ce cap. Alors, entre l'activité et l'environnement, quel est le lien ? Eh bien, une activité n'est pas déconnectée d'un environnement. Une activité, ça se fait dans un contexte, dans un univers, au sein d'une culture, de personnes, d'un cadre bâti, d'objets, supports de mémoire, etc. Et cet environnement, eh bien, quand on pense l'activité, cet environnement il peut parfois être très facilitant, mais aussi parfois il peut créer des obstacles et entraîner des situations accidentogènes ou des limitations d'activité. Alors du coup, l'ergothérapeute ne s'intéresse pas qu'à l'activité, il va être obligé de s'intéresser à la notion d'environnement, puisque celui-ci, c'est une condition de réussite des activités. Alors depuis longtemps, la littérature a donné des éléments justement sur les facteurs de risque liés aux activités, liés aux environnements, excusez-moi. Alors il y a des environnements qui restreignent les activités, on le comprend bien, par exemple quand quelqu'un est en fauteuil roulant et que l'environnement n'est pas accessible. Il y a bien sûr la question de l'inutilisation des espaces et des mobiliers, je passe dessus, c'est pas très important. Il y a aussi les situations accidentogènes. Un environnement non adapté peut créer effectivement des risques à domicile et des accidents. Mais plus subtilement, des choses qu'on voit moins, qu'on comprend moins, mais un environnement non adapté entraîne aussi également des comportements inadaptés, des troubles de l'identité, une désorientation, de l'agitation, de l'anxiété chez les personnes qui peuvent présenter des troubles cognitifs ou des problèmes psychiques, ou être simplement en situation de fragilité. Et tous ces facteurs, en fait, in fine, peuvent entraîner des situations de dépendance. Alors, concrètement, que fait un ergothérapeute ? Eh bien, il va analyser tous ces éléments de l'environnement et ses capacités dans l'activité, et surtout l'envie de la personne. Ce qu'il faut faire, c'est surtout de respecter les choix, les habitudes de vie et le projet de la personne. Alors, il faut faire beaucoup parler les gens, il faut essayer de creuser quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs envies, pourquoi ils développent ça, ils veulent pas faire les choses de cette manière-là, mais d'une autre manière. Et puis après, eh bien, il faut corréler tout ça avec des solutions. Et l'ergothérapeute, il est formé aux différentes solutions qui existent sur le marché. Alors après, il émet des préconisations de modification de l'environnement, de modification des habitudes de vie, donc par des techniques de rééducation, de réadaptation d'un côté, mais après, des entraînements, des conseils sur des solutions techniques et technologiques. Et puis pas seulement, il y a aussi l'évaluation de la juste aide humaine nécessaire, des aides animalières, et c'est tout, j'ai tout dit. Mais tout ça, ça se fait les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du tout technologique, et surtout on ne peut pas faire non plus des situations standardisées correspondant à chaque situation. Parce que chaque être est différent, chaque être est spécifique, donc il y a une solution différente pour chaque personne, chaque situation. Donc, pourquoi ? Parce que dans certains cas, on va d'abord privilégier l'aide humaine, dans d'autres cas, on privilégiera, même si la solution technique existe, on privilégiera donc l'aide humaine. Dans certains autres cas, on privilégiera l'aide technique ou l'aide technologique. Ça dépendra, bien évidemment, du projet de la personne, de ses souhaits et de la situation. Hein. Alors, du coup, on va aller piocher des informations, des connaissances dans un certain nombre de champs, le champ de l'ergonomie, le champ de l'accessibilité, le champ de ce que l'on appelle l'environnement prothétique ou l'orthésage mental, le champ de la sécurité, le champ de la psychologie environnementale. Pourquoi ? Parce que chacun de ces domaines apporte des notions qui sont intéressantes, mais à condition de les combiner les unes aux autres pour justement créer des situations, des solutions spécifiques pour chacune des situations. Alors, tout ça, c'est bien beau. L'ergothérapeute, c'est pas un distributeur de solutions. Il va en donner des solutions, mais c'est surtout un accompagnant. Parfois, je dis même aux gens, c'est une sorte de coach. C'est-à-dire que, alors c'est un terme qui est un peu, on va dire qu'il n'y a pas bonne presse, donc on va pas l'utiliser, oubliez-le. En tout cas, c'est un accompagnateur de la personne, dans le sens où c'est vraiment la personne qui doit faire ses choix. Parce que si c'est effectivement quelqu'un qui décide à sa place, si on arrive comme le col blanc qui dit « il n'y a qu'à faucon et c'est comme ça que vous devez vivre, madame, demain », vous êtes sûr que vous allez à la catastrophe et que la personne, de toute façon, ne vous suivra pas. Et donc là, l'ergothérapeute, évidemment, c'est vraiment celui qui aide plutôt, qui donne les moyens à la personne de faire émerger ses solutions, de qu'elle fasse ses propres choix. Et effectivement, si elle veut conserver le fauteuil de son mari, eh bien, à nous de nous y plier. On prévient la personne des risques, mais après, la liberté, c'est ça ce qui est quand même le plus important dans la vie des individus. On va pas obliger les gens à adopter des comportements. Alors, malgré tout, donc dans cet accompagnement, on doit accompagner parfois le changement. C'est-à-dire le changement des habitudes de vie, le changement des façons de faire, le changement aussi des environnements, parce que ça peut être refusé, ça peut être mal vécu. L'environnement, le domicile spécifiquement, c'est un prolongement de soi, c'est un prolongement d'une enveloppe corporelle. C'est très bien expliqué par les psychologues et les sociologues. C'est comme si, vous attaquez à l'environnement, vous pouvez vous attaquer personnellement à la personne. Et donc, ça peut être vécu comme un viol. Vraiment. Et donc, il faut le faire avec beaucoup de subtilité, il faut le faire avec du tact, vous l'avez dit tout à l'heure, avec aussi un peu de psychologie, et on va utiliser des méthodes qui sont empruntées à l'éducation pour la santé, pour accompagner les gens, donc, à ces changements de comportement. Alors, l'ergothérapeute, dans son action au quotidien, il intervient en renfort de la personne, et c'est bien la personne qui est au centre du processus. Mais il est là pour l'accompagner au milieu du méandre administratif, mais aussi des différents métiers ou des différentes solutions, de manière à ce que la personne fasse émerger ce projet et fasse émerger ses propres solutions. Dans le domaine des technologies, depuis de longues années, les ergothérapeutes utilisent les technologies comme des moyens de compensation. compensation des limitations, des déficiences, alors qu'elles soient motrices, sensorielles, psychiques, cognitives, etc. Ça, on le fait depuis très longtemps auprès des adultes, auprès des enfants. Et je vais citer quelques exemples comme la robotique d'assistance, la communication, les solutions de communication alternative, la domotique, etc. Mais avec le champ de l'âge et de manière concomitante, les nouvelles technologies, et parfois si on associe les deux, les gérontechnologies. Eh bien, avec toutes ces nouvelles solutions qui s'offrent à nous, eh bien, ça rentre naturellement dans le champ de l'exercice de l'ergothérapeute. Et là, spécifiquement pour l'âge, on va avoir d'autres objectifs en plus de ceux précédemment cités, ceux de la communication, du maintien du lien social, de la sécurité, pourquoi pas la surveillance aussi de la santé et la communication de d'autres données utiles aux collègues soignants. Et puis maintenant ce qu'on appelle les logiciels de stimulation cognitive ou de remédiation cognitive. Dans le champ de la silver economy, les ergothérapeutes sont, j'essaie de vous montrer par cette slide, qu'on est relativement engagé depuis quand même quelques années justement sur l'amélioration des pratiques. C'est-à-dire que en termes de recherche, en termes de formation, en termes de communication au grand public, on est l'association que je représente et les ergothérapeutes derrière se sont engagés pour justement créer des dispositifs de formation innovants, justement des professionnels du bâtiment. Vous avez entendu Gabriel Desbrois tout à l'heure avec le label Andibat et nous en sommes partenaires. Aussi de solutions ou de diagnostics portés par, je voudrais mettre ça en avant, avec les caisses de retraite Agicarco, entre autres, sur la base d'une expérimentation qu'avait fait Réunica précédemment, sur les nouvelles technologies spécifiquement. Eh bien, donc comme je disais, depuis longtemps, les ergos préconisent. Via des consultations spécialisées, mais qui sont, c'est vrai, orientées davantage vers l'adulte ou vers l'enfant aujourd'hui. Là aussi, la formation, la participation à des projets de développement, différents partenariats ont été dressés ces dernières années. Donc, on s'investit dans ce secteur parce qu'on sait qu'il y a aux ergothérapeutes de progresser, mais on a aussi des choses à apporter avec nos différents partenaires. Qui me permet de situer l'ergothérapeute dans toute cette chaîne. C'est certes celui qui va accompagner la personne dans l'émergence de ses solutions et de ses besoins, et l'identification de ses besoins et l'émergence donc des solutions, et le choix de ses solutions. Donc il doit connaître ses solutions, parce que pour bien accompagner, il faut au moins les connaître. Donc il est bien l'intermédiaire entre les industriels, les promoteurs, les distributeurs, les vendeurs et les utilisateurs de l'autre côté. Et donc, on est dans un modèle, alors, vous avez devant B2B, eh bien, n'oublions pas le dernier, c'est le client, donc l'usager, et l'ergo, c'est le B du milieu, donc business to client. Mais néanmoins, cette place, cette fonction, cette pratique qu'on essaye de développer et d'améliorer dans le champ de l'âge présente quelques difficultés. Et c'est ce qui va permettre de donner la parole à mes collègues tout à l'heure. Quelles sont les difficultés que rencontrent les ergothérapeutes, comme d'ailleurs les usagers ou les professionnels du bâtiment? Eh bien, c'est l'avancée d'abord rapide des progrès technologiques et techniques qui, du coup, fait qu'on est très très vite largué. Donc ça demande du temps, ça demande d'aller de fouiller beaucoup, ça demande de se déplacer sur des salons comme celui-ci. Donc voilà, c'est consommateur de temps et d'énergie. La deuxième chose, c'est le fameux réseau de distribution. Avec l'émergence des nouvelles technologies et aujourd'hui d'Internet, les réseaux de distribution ont complètement changé. Les ergothérapeutes avaient plutôt l'habitude, pour les enfants, pour les adultes, et pour les solutions plus basiques, donc les aides techniques de base, on va dire, sans que ce soit péjoratif, mais d'avoir des revendeurs et d'avoir du matériel qu'on peut toucher, qu'on peut tester, qu'on peut même emmener à domicile, parce que vous l'avez dit, c'est le plus important, c'est de le tester in vivo. C'est là où on s'aperçoit de la plus-value réelle des choses. Et que les personnes peuvent faire des choix éclairés. Sinon, si on le sait, si on fait un choix, mais... à distance, sans avoir vu le côté pratique du matériel, très franchement, quand on le reçoit à domicile, on le range au placard, et puis ça sera une chose inutile de plus qu'on mettra dans un placard. Alors, le réseau de distribution changeant, c'est-à-dire, grosso modo, la vente se faisant de plus en plus en direct via Internet, on se retrouve un peu démuni, c'est-à-dire qu'on n'a pas le matériel forcément à l'essai, on n'a pas pu tester, la personne, elle aussi, quand elle fait son choix, c'est un pari sur l'avenir. Hein. Donc ça pose effectivement un problème. Là, c'est aussi l'obtention des spécifications techniques des outils. Avant, quand on les avait, quand on peut les toucher, les tester, on voit l'encombrement, on sait si ça casse, on sait si on va pouvoir remplacer des pièces, on sait comment on va pouvoir l'utiliser au quotidien. Maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est aussi un pari sur l'avenir. Bon, la problématique des coûts, je ne vais pas y revenir. Et puis la dernière chose, c'est la perception encore, de manière erronée, la perception des employeurs, voire aussi des employeurs d'ergothérapeutes et des financeurs derrière, que tout ça, finalement, c'est un peu aussi du superflu. Donc, recentrons-nous sur des choses très basiques. Hein, les fondamentaux, c'est l'aménagement architectural et puis c'est les techniques de base. Donc le fauteuil garde-robe et le lit, ça va très bien. Si on passe au pilulier ou alors à de la domotique, on est tout de suite moins d'accord. Alors, les développements à l'avenir, c'est évidemment, c'est déjà là, mais c'est aussi notre souhait que soit encore plus affirmé dans les prochaines années, c'est l'intégration de ce maillon des ergothérapeutes dans la recherche ou la conception de produits, puisque c'est on a aussi là un savoir-faire et des choses à apporter dans ce secteur et dans la recherche et le développement. Dans la formation des professionnels et le label Handibat, nous a permis ça et a permis la rencontre entre le monde de l'entreprise, les artisans et les fameux cols blancs, comme ils disent les artisans, donc les ergothérapeutes. Et puis, la dernière chose, c'est la construction de bases de données, et ce qui me permet de souligner le travail conséquent de M. Mousnier là-dessus, et du laboratoire Ecolab à Laval, et c'est pour cette raison qu'on a décidé de soutenir la démarche et de s'y associer, c'est d'avoir un outil spécifique qui permette aux ergothérapeutes d'avoir des informations fiables de manière à les préconiser adéquatement pour les usagers derrière. Alors, la NFE, c'est vrai que donc l'association que je représente a un rôle de mise en relation, de centralisateur entre les différents acteurs. On a senti qu'effectivement, il y avait le développement d'un outil qui allait servir les ergothérapeutes, mais in fine, la qualité de vie des usagers derrière. Merci pour votre attention.
Un grand merci, Eric. Et c'est vrai que cette collaboration est fondamentale, puisque d'une part, les ergothérapeutes vont avoir accès aux outils et ils vont pouvoir les utiliser dans leur pratique professionnelle, mais je dirais surtout et tout autant, ils vont pouvoir faire remonter leurs besoins par rapport à l'outil pour faire évoluer l'outil comme un outil professionnel du terrain. Et ça, c'est vraiment ce que nous voulons mettre en forme. Maintenant, Juliette va nous dire quelques mots sur le dispositif et le protocole qui est mis en place. Et nous terminerons avec deux dernières interventions, Sandrine et Patrick Setzekorn, de Patients for Health. Juliette, à toi.
Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous. Je suis donc responsable scientifique pour la mise en place d'un protocole expérimental visant à encadrer les tests de matériel, équipement, dispositifs qui sont susceptibles de venir supporter le maintien à domicile des personnes âgées. Donc, l'objectif de ma communication, dont on espère qu'elle pourra être interactive par la suite, c'est de vous montrer quels sont les enjeux qui encadrent ce protocole, quels sont les verrous et la problématique qui se posent sur le terrain, et quelles sont les finalités qui ont été mises en place par Ecolab pour y répondre. Alors, pour vous donner quelques éléments de contexte, ils ont été beaucoup explicités lors de cette journée et grandement dans le cadre de ce salon-là. On voit depuis une quinzaine d'années, même plus, beaucoup de projets de recherche et développement qui associent donc chercheurs et industriels dans le développement de nouvelles solutions à destination de l'aménagement du logement pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps et dans de bonnes conditions à domicile. Ces projets sont énormément financés, aussi bien au niveau national qu'européen. Et on a vu de nombreuses plateformes de tests, communément aujourd'hui beaucoup appelées Living Lab, voir le jour en France et également en Europe. Des centres d'essai beaucoup plus spécialisés dans l'évaluation des gérons de technologie, puisque c'est le terme qu'on utilise beaucoup dans ce champ-là, ont vu également le jour, notamment en France, et se partagent un certain nombre de projets. Or, malgré le foisonnement de ces différentes initiatives, quelques constats sont importants et ont été réalisés par des instances telles que la Haute Autorité de la Santé et l'Inspection Générale de l'Action Sociale. Ces constats, ce sont les suivants. C'est d'abord qu'il n'y a aucun outil et aucune méthodologie qui est vérifiée et est appliquée par l'ensemble de ces dispositifs. Et que, encore plus, on n'a aucun contrôle sur l'utilisation effective des aides techniques ou des outils qui sont mis à disposition des personnes âgées sur le terrain. Donc cette absence d'outils, cette absence de méthode et de méthodologie et cette absence de contrôle formalise un certain nombre d'enjeux aujourd'hui sur le terrain et notamment dans la pratique d'évaluation de ces dispositifs et des solutions pour que le logement soit adapté aux personnes qui sont fragilisées à un certain nombre d'étapes dans leur vie. Donc, les enjeux à travers la démarche des collabs, ça va être de mettre à disposition une base de données qui permettra de référencer l'ensemble des dispositifs innovants et acceptés et qui vont permettre, par ce lancement, que les industriels puissent être en mesure de diffuser très largement leurs innovations, de garantir aux usagers qu'ils puissent être en mesure de comparer et donc d'avoir un choix sur les différents dispositifs qui sont à leur disposition, et pour les aidants familiaux, qu'ils puissent être en mesure d'accompagner leur aidant dans ce choix-là et qu'ils puissent être détenteurs d'informations relatives à ces dispositifs qui soient fiables, mesurées, objectives. Donc la mise en ligne de cette base de données a pour objectif de référencer ces matériels et équipements adaptés au logement des personnes âgées en risque ou en rupture de perte d'autonomie. Toujours dans le périmètre de ce protocole, ça amène à identifier un certain nombre de verrous, notamment parce que, comme on le disait, ou comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, on a vu que sur le plan méthodologique, il n'y a pas d'outils et il n'y a pas non plus de contrôle. Donc, l'une des problématiques essentielles à aborder dans l'élaboration d'un protocole visant à encadrer les dispositifs mis à disposition pour les personnes âgées, c'est tout d'abord qu'il y ait une démarche éthique. Cette démarche éthique, c'est de faire en sorte que des questionnements visant à respecter l'intégrité des individus, à respecter une démarche ou une réflexion autour de l'usager, autour de ses situations de vie, et une réflexion sur les réserves méthodologiques dans la démarche évaluative est nécessaire aujourd'hui. Il y a également une autre problématique qui est celle de la méthodologie et de la pertinence des tests en particulier, puisqu'il nous manque des éléments vérifiables en termes d'efficacité des tests qui sont réalisés sur le terrain. Autre point méthodologique, on a pu le voir avec la présentation de M. Malia, l'opposabilité de la démarche, c'est-à-dire qu'on puisse garantir aux usagers que les procédures et les outils qu'on utilise sont effectivement celles qui sont utilisées sur le terrain. Enfin, une autre problématique est celle de la pratique. Alors, celle de la pratique dans le sens bonne pratique. C'est-à-dire que l'un des verrous est, bien sûr, qu'on puisse, à travers un protocole, quand il est élaboré, promouvoir la bientraitance et prévenir la maltraitance. Promouvoir la bientraitance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir aider les professionnels à réfléchir dans leur façon d'être et d'agir auprès des personnes âgées, mais qu'on va aussi pouvoir les aider dans cette démarche à associer les usagers à la pratique des tests. Et cette notion, elle est fondamentale dans le protocole. Également, sur le registre des problématiques identifiées, celle de la déontologie, à savoir de pouvoir respecter, en fonction de chaque professionnel qui s'investit dans une démarche évaluative d'un dispositif technologique, d'un matériel, d'un équipement destiné au maintien à domicile, qu'on puisse respecter un certain nombre de codes et de principes liés à sa profession, mais liés aussi à la profession de l'évaluation de ces dispositifs. Ça signifie que dans le périmètre du protocole qui est aujourd'hui mis en place, l'objectif, ça va être de formaliser cette méthode, des procédures et des outils bien spécifiques qui vont permettre d'orienter l'usager sur un certain nombre de points, qui sont la fiabilité technique des outils qui sont évalués, sa facilité d'installation. Donc ça, c'est des éléments qui sont mis en place et vérifiés avec les artisans, tels que on a pu le voir avec M. Desgrois. Que le service rendu à l'usager est mesuré et qu'il est objectivé, et que grâce au travail des ergothérapeutes, on puisse avoir une réelle visibilité sur l'adaptation et la compatibilité du produit au profil des différentes, au profil de fragilité des différentes personnes. Enfin, l'objectif de ce protocole, c'est également de vérifier et de mettre en avant la valeur et les conditions d'usage de ce produit. Je vais passer assez rapidement sur la méthodologie qui est mise en œuvre. On a pu l'évoquer tout à l'heure. Ça va être d'associer trois sites d'expérimentation, un EHPAD, un Living Lab et une plateforme de test, mais c'est surtout associer les usagers. Et ces participants, il y a autant de formes d'usagers qu'il y a de formes de vieillesse et de professionnels. Il y a des personnes qui sont en situation de fragilité, mais il y a aussi des bénévoles retraités. Il y a des professionnels type ergothérapeute, mais il y a aussi des artisans. Et il y a les aidants aussi bien proches, les voisins, que les aidants professionnels du secteur médico-social. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des étapes, mais pour vous signifier que dans l'élaboration de ce protocole, on part de processus clés qui mettent en avant des procédures qui vont garantir les différents points que je vous ai cités, éthique, bien-traitance, bonne pratique, déontologie. Dans ces grandes lignes, ça va être à travers l'identification des innovations sociales, permettre que les industriels qui sont en passe de mettre leurs produits ou qui sont en train de mettre leurs produits sur le marché puissent être approchés pour qu'on puisse leur donner les moyens de diffuser et de valoriser leurs solutions. Ensuite, via l'utilisation d'une démarche de contractualisation, de faire en sorte que ces industriels, on les aide à mettre en avant les informations les plus pertinentes quant à leurs produits. Informations pertinentes, comme on l'a vu, tant en termes de normes, de standards, de labels, qui vont permettre à l'usager et à leurs aidants et aux autres professionnels de s'y retrouver dans cette manne d'informations. Ensuite, par rapport à l'évaluation qu'on va pouvoir mettre en œuvre, c'est travailler avec les professionnels artisans, mais aussi avec les professionnels de type ergothérapeute, pour vérifier la compatibilité du produit, sa facilité d'installation et sa fiabilité technique. Évaluation également ensuite avec les usagers pour vérifier la compatibilité à leurs besoins et à leur profil de fragilité, ce qui va nous permettre ensuite de compiler ces différentes informations, de les coter et de les faire rentrer dans ce qu'on a appelé dans la base de données et de permettre une diffusion via un portail internet de ces informations qui vont être nécessaires pour que l'usager puisse faire œuvre de libre choix quant au dispositif dont il a besoin.
2 minutes.
Pour terminer sur ce dispositif, afin de l'encadrer, on a fait en sorte qu'il puisse être mis en place via 3 comités qui sont consultatifs, un comité de rédaction où siègent des experts qui ont pour vocation de vérifier et de travailler avec nous sur l'établissement des procédures et des outils méthodologiques qui vont être déployés sur le terrain pour évaluer ces matériels et équipements. Un comité d'experts techniques dont l'objectif est qu'ils permettent, grâce à leurs compétences et à leur expertise métier particulière sur une famille de produits, de vérifier la conformité du produit. Ce n'est pas à nous de le faire, mais c'est aux experts de le réaliser. Et un comité d'éthique pour s'assurer de la prise en considération des risques et des bonnes pratiques. Donc ces éléments vont nous permettre à chaque fois de vérifier via des mesures standardisées, objectives et scientifiques, de l'acceptabilité technique, individuelle et sociale de chaque dispositif qui pourra rentrer dans cette base et pour lequel une information sera fléchée et donnée à l'usager. Je vous remercie de votre attention. Le déploiement de cette campagne devrait avoir lieu courant du premier trimestre sur Laval.
Merci Juliette, et vraiment je te présente toutes nos excuses pour t'avoir fait accélérer sur ce chef-d'œuvre méthodologique que tu nous as présenté. Vous trouverez bien sûr les présentations et vous aurez des petits films vidéo sur notre site. Vous aurez toute l'information qui complète ce que vous avez là maintenant. Sandrine, est-ce que tu veux prendre la parole pour continuer? Donc dans 10 minutes, comme nous l'avions dit, maximum, c'est pas bon. Sandrine Pradier, donc, qui a une double casquette au sein de l'ANFE, qui a une double formation également d'ergothérapeute et de formation à la gérontechnologie, plus un petit peu d'informatique en passant, et qui est chef, non pas de projet, mais de produit, par rapport à cette démarche qui est faite, donc qui a un des rôles d'ajustement, justement, entre nos capacités de développement d'une base et les vrais besoins des vraies personnes dans la vraie vie, sur le vrai terrain. À toi, Sandrine, j'ai dit.
Bonsoir à tous. Donc moi, l'objectif de ma présentation, ça va être de vous montrer par quel processus on va passer de la technologie au consommateur. Donc dans un premier temps, tout ce que vous avez pu voir déjà sur ce plateau, c'est qu'il y a un marché qui existe, il y a des fabricants qui sont prêts, des technologies, des aides techniques qui sont déjà vendues et utilisées. D'un autre côté, nous, en tant que professionnels de santé, eh bien, on ne demande qu'à préconiser les bons outils pour les déficiences mesurées des patients. Les artisans aussi savent mettre en œuvre toutes ces technologies selon les spécifications qu'on leur donne, éventuellement. Donc effectivement, dans le cadre du projet, il y a une convention qui a été réalisée avec Handibat. Le seul problème, c'est qu'on va se retrouver toujours du quid de l'adéquation entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a les fabricants, de l'autre côté, il y a les professionnels de santé ou les artisans, et on ne sait pas exactement pour quel profil préconiser telle ou telle technologie. Pour quelle personne. Sachant que, contrairement au moule dans lequel on s'obstine à nous mettre dans le milieu médical, les humains ne sont pas qualifiés uniquement par un ensemble de déficiences. Ce n'est pas un cancéreux, un polyarthritis. C'est vraiment des êtres humains, comme tous les autres, et ils ont des activités qu'ils comptent maintenir ou pas. Donc c'est par rapport à cette évaluation de l'humain qu'on va chercher à leur préconiser le meilleur pour eux. Donc, dans quelle mesure l'ergothérapeute va travailler? Eh bien, moi, j'ai voulu revenir un tout petit peu sur comment ça se passait concrètement, une évaluation à domicile. Donc là, par rapport à ça, on ne peut pas parler de soutien à domicile, parce que je préfère le terme de soutien à domicile plutôt que de maintien à domicile, où il y a vraiment la terminologie captive un petit peu dedans, de vie à domicile, sans évaluer l'humain dans son environnement et dans ses activités. Pardon. Donc le bilan ergothérapique aura trois étapes d'évaluation. Donc on va évaluer la personne, on va d'abord s'intéresser à elle quand on va rentrer chez elle. Ce n'est pas à son environnement qu'on va s'intéresser en premier, mais on va déjà s'intéresser à la personne qui nous reçoit, un peu pour lui montrer qu'on n'est pas des méchants et qu'on n'a pas la casquette santé directement. Donc on va s'intéresser à la personne et puis on va essayer de lui demander quelles sont les situations dans lesquelles eh bien, elle se sent en difficulté. Voilà. Donc en deuxième temps, on lui demandera si elle veut bien nous montrer son domicile, qu'elle lui poser quelques questions bien ciblées sur quelles sont les situations qu'elle estime, elle, dangereuses, et puis quelles sont les difficultés qu'elle a. Et surtout, à la fin, on va interroger la personne sur ses activités et sur les limitations qu'elle a dans ses activités. Par exemple, pour une polyarthrite, polyarthritique, eh bien, elle faisait du bridge avant, maintenant elle est complètement rétractée. Elle ne peut plus faire de bridge parce qu'elle ne peut plus tenir correctement ses cartes. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que nous allons questionner quand nous allons à domicile. Donc à l'issue de ça, eh bien, nous allons effectuer des préconisations. C'est-à-dire déjà lui dire, si vous voulez, par exemple, quand vous allez atteindre votre verre pour votre déjeuner, eh bien, évitez de vous tendre sur la pointe des pieds pour aller le chercher tout en haut. On va déjà essayer de lui faire mettre ses verres à un endroit un petit peu plus accessible. On va corriger ces petites habitudes petit à petit. On va demander, mais alors là, ça ne se passe pas en une seule étape, la modification éventuelle du bâti. Et là, on va travailler avec les artisans d'IBAT. On va préconiser éventuellement des aides techniques, des technologies pour l'autonomie, et on va lui proposer une éducation à de nouvelles habitudes, et bien par exemple pour continuer ses activités telles son bridge. Donc là, on a tout un tas de choses qui nous freinent un petit peu, c'est-à-dire que trouver la bonne technologie, ça prend beaucoup de temps. C'est un travail de recherche qu'on a au fur et à mesure, et comme tous les humains sont différents, eh bien on ne va pas toujours préconiser la même chose. Typiquement, je refuse un petit peu l'image de dire « quand il y a telle pathologie, vous préconisez telle chose et uniquement telle chose ». Ça va vraiment avec ce que veut la personne, puisqu'il y a des personnes qui sont complètement handicapées, qui ne veulent pas de fauteuil roulant électrique. Elles veulent continuer à avoir un fauteuil roulant manuel, même si elles ne peuvent plus le déplacer, parce qu'elles ont peur de se déplacer, parce qu'elles ont peur que plus personne ne s'intéresse à elles et les pousse, parce qu'il y a aussi un avantage à être poussé. Voilà. La plupart du temps, donc, les professionnels de santé, quand ils vont faire une intervention à domicile, on se trouve souvent, quand on est dans certains systèmes économiques, on se trouve à préconiser uniquement du suivi de survie, c'est-à-dire le minimum qui est nécessaire pour que la personne continue à rester chez elle. Mais on part du principe, et c'est ce que la base va nous aider, je vais y revenir, eh bien, que si, par exemple, un véhicule nécessite de l'huile, de l'essence pour bien rouler, fournir un déambulateur à une personne et une télé à l'alarme ne la fait pas bien vivre. Voilà, c'est tout le principe. Donc là, on va aller de plus en plus vers la vie. Donc pour une personne, la perte de l'autonomie signifie aussi l'arrêt de ses activités ou leur limitation. On se trouve avec le cas où des solutions et des produits existent, mais comment les choisir? C'est-à-dire, je reviens sur le système, l'important pour nous, c'est d'avoir du choix. Proposer la meilleure technologie, mais d'avoir du choix, et pas qu'une seule. Et ça, on insiste vraiment dessus. Et puis, quand on arrive à trouver vraiment les bons choix, quelquefois, on est complètement bloqué, parce que la technologie, elle avance si vite, qu'on a à peine testé un modèle, on l'a préconisé à un certain nombre de personnes, et puis on arrive, ah ben oui, il est devenu obsolète, il ne se fait plus, il y a un super nouveau modèle, très silencieux, très invisible, là qui ne correspond plus du tout, mais quel nouveau modèle, on ne fait plus l'ancien, qui était bien fluo, que la personne âgée voyait très très bien, et qu'elle entendait très bien, puis maintenant, la technologie, elle a évolué vers un modèle beaucoup plus moderne, mais qui n'est plus du tout compatible avec ce qu'on avait préconisé à la base. Donc, nous, on voudrait aussi insister par rapport à cette base de données, c'est sur le fait que nous avons la chance, avec notre casquette de soignant, de pouvoir poser des questions aux patients sur des éléments de sa vie intime, de ses gènes au quotidien, qu'il ne va pas du tout dire à sa famille, parce que justement, c'est des gènes. Et donc, avec cette casquette, on va pouvoir relever des choses qu'aucun autre professionnel non astreint au secret sera capable de gérer. Et dans nos préconisations, on le préconisera au même titre que les autres choses, mais de façon tout à fait discrète. Et donc, voilà, ça c'est un aspect de notre vie de professionnel au domicile. Et puis, on va lui poser aussi des questions sur ce qui lui donne du plaisir à vivre. Et ça, j'insiste lourdement, parce que c'est très important. On ne fait pas du maintien à domicile, mais du soutien à domicile. Donc, vous parliez de la gazinière. Je vais rebondir dessus, parce que justement, on a un problème. Parce que souvent, particulièrement chez ces messieurs d'ailleurs, ils aiment bien garder toujours le bon repas. Moi, j'aime bien faire un bon repas dominical. C'est mon plaisir de ma vie, sauf que ils se sont aperçus dans la famille que je ne sentais plus bien. Et donc, ils m'ont enlevé ma cuisinière au gage. Je fais comment maintenant pour continuer à cuisiner, pour avoir des bons petits plats? Parce que les bons petits plats au micro-ondes, tout est relatif. Je veux jouer, je fais comment? Donc, l'ergothérapeute va aussi donner des solutions à ça. Alors évidemment, ce n'est pas les solutions qu'on nous demande de façon majeure. Quand on nous fait intervenir à domicile, il faut que vous regardiez l'hygiène, enfin toutes les choses typiquement médicales de santé, etc. Mais ça, ça fait partie de notre travail et ça fait partie de ce qu'on va préconiser. Et puis, beaucoup, c'est « je veux communiquer ». Bah oui, parce que je dis toujours la même chose. Alors je fais suer un petit peu ma famille, je fais suer un petit peu mes petits-enfants, parce que je répète toujours la même chose, mais je voudrais pouvoir communiquer avec eux, qui me parlent de loin. Sauf que l'informatique, oh là là, mon Dieu, c'est vraiment très très compliqué. Donc à nous, d'ergothérapeutes, de lui préconiser aussi un système avec lequel il pourra plus facilement communiquer avec ses petits-enfants. Je veux aussi, il y en a beaucoup qui veulent aussi retravailler pour retrouver une position dans la société. Donc est-ce que c'est possible que je puisse aider des jeunes? Donc ça, c'est pareil. C'est à nous aussi de pouvoir le préconiser et avec tout ça. Ce qu'ils veulent, en globalement, quand on va les voir, c'est qu'ils veulent continuer à se sentir utiles et pas maintenus à domicile. Donc,
Deux minutes.
Donc, je vais accélérer.
Sans casser le pupitre.
L'objectif de la NFE sur la base de données, eh bien, c'est de pouvoir préconiser rapidement une technologie testée et validée par les meilleurs professionnels. Que ce soit des technologies classiques et des aides techniques les plus avancées, que ça nous aide en tant qu'ergothérapeute à aménager plus facilement les appartements avec nos collègues artisans, et aussi énormément que ça puisse nous aider à la compensation des situations de handicap non prises en charge par le corps médical. Parce qu'il y a des choses comme le pilulier automatique. Eh bien, le pilulier automatique, c'est un cas très très particulier, puisque ce n'est pas considéré comme du matériel médical. Eh bien, qui c'est qui le préconise? Voilà. La luminothérapie, on considère que c'est, oui, ça existe, mais on ne sait pas très bien si ça marche, etc. Ben, une fois que ce sera validé et testé, on pourra le préconiser, surtout dans ceux qui n'ont pas la chance d'habiter dans le sud. Donc, voilà, et c'est quand même très important pour le mieux-être de la personne. C'est pareil, tous les déplacements de loisirs. Oh ben oui, mais c'est pas grave, tu resteras à la maison. Eh ben non, il faut quand même leur permettre d'avoir un déplacement de loisirs et leur permettre d'acheter le mieux pour eux. Voilà. L'objectif de la base, c'est aussi de pouvoir préconiser des technologies tout à fait inhabituelles. Donc, par exemple, des robots. Donc, avec le système d'information Ecolab, comment nous allons l'utiliser? Eh bien, le système d'information Ecolab va nous permettre de choisir le meilleur pour la situation du patient, va nous aider à dire où trouver le matériel, en fonction de la région du patient, l'aider à simuler aussi son implantation au domicile, puisqu'il va y avoir un module de simulation. Alors, tous ceux qui connaissent les tests à domicile savent très bien que quand on arrive et qu'on préconise tout un tas de changements, ça fait absolument peur à la personne. Donc là, on va lui préparer une simulation qui pourra rejouer a posteriori, tout seul, chez lui, pour vraiment voir in situ et s'habituer à l'idée qu'il va falloir qu'il change de place son lit parce que maintenant il va avoir un lit plus adapté, etc. Donc là, ça c'est très très important pour nous. C'est-à-dire qu'en tant qu'ergo, on va lui montrer tout ce qu'il va pouvoir faire avec les préconisations qu'on lui fait, mais il va pouvoir se le rejouer plus tard. Et quand son projet de vie aura évolué, sa vision des choses aura évolué, eh bien il pourra petit à petit se faire à l'idée et se rappeler avec cette simulation comment ça pourrait marcher. D'accord ? Comment allons-nous faire évoluer la base? Eh bien, de deux façons. Donc, il y a l'évolution des besoins du domicile qui va permettre l'émergence de nouveaux besoins de technologies innovantes. Donc ça, on ne sait pas encore vraiment exactement, mais tout l'aspect veille va nous permettre de faire évoluer la base. Quand on va sur des salons comme ça, ou quand on a des remontées entre ergos, on va pouvoir faire évaluer justement ces besoins par nos commentaires sur les produits. Parce qu'on va faire des commentaires avec nos collègues en DIBAT, donc l'installation, l'ergonomie adaptée, et aussi des notions de pathologie qui sont justement réservées strictement aux ergothérapeutes, et ensuite par notre veille professionnelle interne. Je vous remercie de votre attention.
Merci Sandrine, et pareil, vous trouverez sur le site des possibilités de discussion avec Sandrine, avec les différents interlocuteurs de la base. une dernière intervention rapide de entrepatients.com, quelques minutes à peine, mais c'est suffisant pour faire passer l'esprit du premier site patient français.
Bonsoir à tous, je vais essayer d'être rapide. Donc je vais vous présenter la plateforme Patients World en deux temps, une présentation générale et puis après on parlera plus concrètement du partenariat qu'on a commencé avec Equolab. Donc Patients World c'est quoi ? L'idée c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de santé sur une même plateforme, que ce soit les patients, les proches de patients, médecins, pharmaciens, hôpitaux, CHU, les laboratoires pharmaceutiques, les assurances, les mutuelles. Aujourd'hui, sur la plateforme, on délivre énormément de contenu. On a des actualités, on a des dossiers, on a des fiches thématiques. On a deux gros annuaires, un annuaire de médicaments, un annuaire de professionnels de santé, qui aujourd'hui correspond à peu près à 1 million de pages référencées dans Google. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée du contenu. Une grosse partie de notre site, bien évidemment, c'est notre réseau social, dans lequel nous accueillons, comme je disais tout à l'heure, patients, proches et professionnels de santé, associations, qui représentent aujourd'hui 1,2 million d'abonnés à nos newsletters et 35 000 membres qui sont actifs sur le réseau, qui participent, qui échangent dans des groupes thématiques. Aujourd'hui, on a à peu près 250 groupes thématiques et des gens qui vont également prendre leur santé au quotidien, prendre en charge leur santé au quotidien. Donc on a un certain nombre d'applications qui sont disponibles à la fois sur ordinateur, sur mobile, sur tablette, et qui permettent de gérer au quotidien son poids, son stress, son alimentation. Nous avons aussi des outils de diagnostic à destination des seniors, comme des outils de diagnostic de mémoire, des outils de diagnostic d'autonomie. Tous ces programmes-là ont été faits avec des professionnels de santé, avec par exemple l'IRBA, qui est l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées. Sur la partie diagnostic d'autonomie, par exemple, on a travaillé avec le Gérontopôle des Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce qu'on offre comme solution ? L'inscription, tous les services qu'on fournit aux patients proches est totalement gratuit. Les professionnels de santé peuvent également s'inscrire gratuitement chez nous. Et derrière, l'idée, c'est de fournir un certain nombre de services à valeur ajoutée. Donc des solutions, par exemple, d'e-marketing. On verra tout à l'heure un petit peu plus en détail. Marketing standard, mais un marketing aussi un peu plus ciblé. La possibilité chez nous de réaliser des études cliniques ou marketing. Et également, troisième possibilité, c'est de créer en fait sous forme d'abonnement en inclusion, par exemple pour des mutuelles ou pour des assurances, voire même des entreprises qui souhaitent offrir des services en inclusion à leurs salariés. Alors, je parlais d'e-marketing tout à l'heure, on fait de l'e-marketing traditionnel, du bannering, de l'emailing, mais l'idée, c'est, le plus souvent, c'est de délivrer la bonne information à la bonne personne. Toutes les personnes qui sont inscrites chez nous ont, à l'inscription, donné un certain nombre d'informations sur les pathologies qui les intéressent, ou, par exemple, des pathologies qu'ils ont eux-mêmes, ou qu'ils accompagnent leurs proches. Et donc l'idée, c'est de pouvoir cibler de l'information et donner de l'information à la bonne personne. On travaille aussi, on aide les marques chez nous qui viennent sur notre réseau social à recruter, entre guillemets, et fédérer des communautés autour de thématiques. On le verra tout à l'heure.
On va accélérer un petit peu, on va s'éloigner de la salle.
Donc, on réalise des études. Qui permettent en fait de très rapidement, parce qu'en fait on a des panels assez importants, donc de pouvoir réaliser, par exemple on a réalisé des études sur les douleurs, sur l'arthrose, donc très rapidement de pouvoir fédérer beaucoup de personnes qui vont pouvoir répondre à ces informations. Venons-en au partenariat avec Equolab. Donc Equolab s'est inscrit chez nous, donc aujourd'hui ils ont leur propre page, peuvent se présenter, commencent maintenant en fait à recruter leur propre communauté et va pouvoir délivrer de l'information au quotidien en disant voilà, on travaille sur ça, telle information. Et donc ils ont créé trois groupes également thématiques dans lesquels ils vont pouvoir discuter de choisir le mobilier, le projet Smart Senior Home. La deuxième étape, on va travailler ensemble, l'idée c'est de faire grossir sa communauté. C'est-à-dire que une fois que vous êtes présent sur Patients World, l'idée c'est de fédérer des personnes qui vont suivre votre actualité, qui vont participer dans vos groupes. Donc ça, vous avez des possibilités d'être autonome et de le faire vous-même, ou de faire appel à Patients World qui va, au travers de des membres qui sont déjà inscrits chez lui, de dire voilà, venez rejoindre iCollab sur Patients World et avec un ciblage bien précis. Par exemple, là, le but c'est de constituer des panels d'usagers fragiles pour iCollab, et donc nous on va aider iCollab à créer ces communautés et à les fédérer. La possibilité aussi, là on a parlé plutôt de patients, de fédération de patients, l'idée c'est aussi de pouvoir créer des groupes thématiques privés, groupes d'ergothérapeutes, prescripteurs professionnels, dans lesquels en fait il va pouvoir y avoir des discussions qui vont être gérées au sein de groupes totalement privés. Troisième étape. Une fois que vous avez constitué en fait votre communauté, le but c'est d'interagir et c'est d'animer cette communauté. Là encore, deux choix possibles. Soit iCollab a des personnes en interne qui gèrent cette communauté au travers de community managers, soit Patients World peut proposer des community managers pour animer ces communautés et les aider à remonter de l'information. D'où l'idée d'avoir derrière des possibilités de faire des packs d'études. Par exemple, études sur évaluer le taux d'équipement en fait, des communautés gérées par iCollab, la satisfaction de l'utilisation du matériel. Et donc là, on va pouvoir monter des études et remonter de l'information. Voilà.
Merci.
J'ai essayé d'aller vite.
Désolé cette accélération. Vous voyez bien, et ce sera pratiquement le mot de la fin, l'intérêt de la collaboration qu'il y a, plutôt que de rester enfermé sur les seuls réseaux qu'on maîtrise, qu'on connaît, etc., et qui nous connaissent tellement bien que finalement on s'auto-reproduit. Travailler avec un site comme Entre Patients nous donne la garantie de toujours nous ouvrir sur des nouveaux adhérents, des nouvelles communautés, etc., et donc d'associer une mini-communauté à chaque famille de produits pour leur demander qui utilise ce produit-là, quels autres produits vous utilisez, qu'est-ce que vous en pensez. Vous voyez que faire remonter ces informations et les associer à la décision de choix est un des critères vraiment fondamentaux de notre base. Un grand merci, je ne retarde pas plus les conclusions. Grand merci à vous. Venez nous retrouver sur le site Ecolab ou sur le site Smart Senior Room. Rentrez en contact avec nous. On est là, vous faites partie des usagers privilégiés, entre guillemets, des informations qu'on veut échanger. On est là pour répondre à vos questions et vos questions nous aideront à évoluer dans le bon sens, comme l'a dit Catherine qui était obligée de partir, dans la vraie vie. Merci à vous en tout cas.
Tout le monde dehors.